VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le procès de l'assassinat du général Robert Gueye a débuté aujourd'hui dans le quartier du Plateau à Abidjan. 24 militaires proches de l'ancien régime de Laurent Gbagbo sont accusés d'assassinat et de complicité d'assassinat dans cette affaire et doivent répondre du sort de l'ancien chef de la junte militaire qui a dirigé la Côte d'Ivoire entre 1999 et l'an 2000. Il s'agit entre autres d'Anselme Sekayapo, dit Sekaseka, ancien responsable de la sécurité, rapproché de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo, et du général Dogbo Blé, ex-commandant de la garde républicaine. Le président du Front populaire ivoirien, FPI, ex-parti au pouvoir, Pascal Affine Nguessan, premier ministre au moment des faits, est également concerné par ce procès. Le général Robert Gueye, ainsi que son épouse et des membres de sa famille et de sa garde rapprochée, ont été assassinés le 19 septembre 2002 lors de l'éclatement d'un coup d'État manqué qui s'est par la suite mué en une rébellion. Au Nigeria, un garde civil et quatre kamikazes ont été tués mercredi dans un attentat suicide à Mafa, non loin de Maïdougouri, ancien fief de Boko Haram. Des précisions avec Arzuma Compaoré.
Une kamikaze s'est fait exploser non loin du checkpoint et l'armée affirme que les trois autres ont été abattus par les gardes civils. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le modus operandi correspond à celui de Boko Haram. Le mois dernier, 8 personnes ont été tuées à ce même poste de contrôle lorsqu'une femme kamikaze s'est fait exploser au milieu des réfugiés. Depuis quelques mois, l'armée nigériane, aidée par les armées tchadiennes et camerounaises, a regagné du terrain permettant à certains réfugiés de revenir au pays. L'agence de gestion des situations d'urgence, NEMA, a annoncé qu'un millier de réfugiés sont ainsi rentrés du Cameroun en deux jours et ils ont été accueillis dans le camp de Fufore, dans l'état d'Adamawa. Grâce à l'amélioration de la situation sur le plan sécuritaire, 18 600 réfugiés ont déjà pu revenir depuis le mois d'août et 15 000 autres sont attendus dans les prochaines semaines, selon la NEMA.
Afrique de l'Ouest toujours, selon l'Organisation mondiale de la santé, la réapparition de l'épidémie Ebola au Libéria fin novembre est liée à la persistance du virus chez une personne précédemment guérie de la maladie. Le point avec John Lyndon.
L'OMS, dans son bulletin hebdomadaire, a annoncé hier que les récents cas au Libéria sont le résultat de la résurgence du virus Ebola. D'après Gregory Halt, porte-parole de l'OMS, une personne était tombée malade une première fois, puis a guéri et a ensuite retombé malade une deuxième fois. L'organisation basée à Genève suggère de suivre les personnes guéries en procédant à des analyses de leur fluide corporel pour détecter l'éventuelle présence du virus. Le 4 décembre, les deux derniers cas connus d'Ebola au Libéria ont été déclarés guéris. Le pays avait été déclaré exempt en mai, mais 7 semaines plus tard, de nouveaux cas ont été recensés. Le Libéria a de nouveau été déclaré exempt le 3 septembre, mais le 20 novembre, un nouveau cas a été confirmé. Le pays devrait à nouveau être déclaré exempt de transmission le 28 décembre, si d'ici là, aucun nouveau cas n'est signalé. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait depuis 2013 près de 11 300 morts sur les quelques 28 600 cas enregistrés, la plupart en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Afrique centrale maintenant en RCA. Des habitants du quartier PK5 à Bangui ont manifesté devant le siège de la MINUSCA, la mission onusienne, pour demander des mesures plus vigoureuses contre les auteurs des exactions qui mettent à mal la paix et la cohésion sociale. Parmi les fauteurs de troubles qui sont indexés dans ce bastion musulman de Bangui figure l'ancien ministre de Michel Djotodia, Abdoulaye Hissen. Félix Yepassi Zembo a joint le président du collectif 236 km 5, Dieu merci Lazare Njader Kangang.
Après le référendum du dimanche dernier, le kilomètre 5 est dans le calme. Parce que ce que le peuple avait voulu, le peuple l'a obtenu. Nous avons voté. Malgré les armes, les roquettes, malgré les calas, nous avons voté. Donc, il y a eu un apaisement de ce côté-là. Mais cette situation nous a permis de voir la réalité en face. C'est que ceux qui sont venus au kilomètre 5, soi-disant pour protéger les habitants du kilomètre 5, ne sont pas les amis de la paix, ce sont plutôt les ennemis de la paix. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, la population du kilomètre 5 s'est levée comme un seul homme pour aller manifester devant la MINUSCA et remettre un mémorandum pour que la MINUSCA prenne ses responsabilités pour leur demander de quitter le kilomètre 5 et de nous laisser en paix. Nous ne voulons pas vivre sous des coups de feu, nous voulons vivre en paix. Nous avons voulu des élections parce que nous sommes citoyens, nous avons obtenu les élections. Maintenant, nous voulons la paix intégrale au kilomètre 5 et nous l'aurons.
Dieu merci, Lazon Jader Kangang, président du collectif 236 km 5, hier à Bangui. Crise burundaise, l'Union africaine ne laissera pas un autre génocide se dérouler sur le continent, a fait savoir aujourd'hui les États membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA au sujet des violences au Burundi. Et ce, après une réunion du Conseil à Addis Abeba. Pour sa part à New York, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Parros, a exhorté les Nations Unies à se préparer plus activement à agir au Burundi. Le secrétaire général Ban Ki-moon envoie son émissaire dans la région. Bagasikoura.
Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas assez de planification d'urgence, a affirmé Samantha Power devant la presse aux Nations Unies, jugeant la situation au Burundi horrible. Elle a rappelé les images de cadavres retrouvés dans les rues, les mains liées et avec des balles dans la tête. Elle a dit craindre le pire. Le Conseil de sécurité a envisagé le mois dernier de déployer des casques bleus au Burundi. La Russie, la Chine et les membres africains du Conseil sont plutôt réticents à cette idée. Ban Ki-moon a annoncé que son émissaire pour le Burundi, Jamal Ben Omar, se rendra sur place dans les prochains jours. Il va s'entretenir avec l'Union africaine, les pays de la région et le gouvernement burundais pour tenter de promouvoir un dialogue crédible et sans exclusive. Depuis le début de la crise, des centaines de personnes ont été tuées et plus de 200 000 Burundais ont fui le pays.
En Afrique du Sud, les manifestations se multiplient pour demander la démission du président Jacob Zuma. Les protestataires accusent le chef de l'État de mettre en péril l'économie sud-africaine pour servir ses intérêts personnels. La récente valse de ministres à la tête du ministère des Finances semble avoir été la proverbiale goutte ayant fait déborder le vase. Timothée Donormaille a recueilli l'analyse du professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
Le président Zuma est en effet un premier ministre. Il est élu par le Parlement et la majorité simple de l'Assemblée, du Parlement, peut aussi le substituer. Ce n'est pas un président élu directement par le peuple. Ainsi, le Parlement, c'est-à-dire la majorité dans le Parlement, le parti ANC, a le pouvoir de le remplacer. C'est ainsi que le président Thabo Mbeki est parti, quand il a compris qu'il n'avait plus de majorité dans l'Assemblée nationale, et quand il a compris que son parti allait même appuyer un vote pour sa substitution, c'est alors qu'il s'est démissionné. Si ce signal parvient à Zuma, oui, là aussi, il n'aurait peut-être pas d'autre chance que de se démissionner. Il y a un encouragement aussi constitutionnel. Le président en Afrique du Sud, s'il est remplacé, perd ses privilèges. Le président qui part de sa propre volonté, qui se démissionne, ne perd pas le privilège, il sera bien tenu pour le reste de sa vie.
Le professeur André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. Crise libyenne, les membres des parlements rivaux en Libye se préparent à signer demain au Maroc, ou plutôt aujourd'hui au Maroc, sous l'égide de l'ONU, un accord contesté, mais qui pourrait constituer un premier pas pour sortir le pays du chaos. Face à la progression du groupe État islamique EI en Libye, où deux gouvernements et deux parlements se disputent le pouvoir, une vingtaine de pays et organisations internationales ont réclamé dimanche à Rome un cessez-le-feu immédiat et la mise en place rapide d'un gouvernement d'union. Alors que le pays est livré aux milices depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la communauté internationale est particulièrement inquiète de la porosité des frontières permettant le départ de milliers de migrants vers l'Europe. Et puis le Pakistan a confirmé sa participation à la coalition de 34 pays majoritairement musulmans contre le terrorisme. Islamabad, qui a dénoncé pendant des années ce qu'il appelle l'interventionnisme américain, reste très prudent sur la nature de ses interventions militaires à l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères s'était contenté dans un premier temps à saluer la création de l'Alliance. Selon Riyad, les pays membres échangeront des informations, fourniront du matériel et de la formation et mettront des forces à disposition si nécessaire. Et pour terminer, l'attaque contre un centre de réservistes à Chattanooga dans le sud des États-Unis qui avait coûté la vie à 5 militaires américains en juillet est bien un acte inspiré par un groupe terroriste étranger. C'est ce qu'a reconnu aujourd'hui le Pentagone et le FBI. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.